Bienvenue sur Radio Galère dans 88.4 dans l'émission Et si on s'écoutait. Nous sommes le mercredi 22 octobre et nous sommes en direct de 20h à 21h. Le replay sera disponible d'ici quelques jours sur le site internet de Radio Galère. Dans cette émission, nous recevons des invités qui, par leur parcours de vie ou leur engagement, explorent ce qui signifie vraiment écouter. Qu'il s'agisse d'une expérience intime ou d'une action tournée vers les autres, chaque voix ici éclaire une facette de cette qualité si précieuse et pourtant si rare. L'écoute. Des scènes culturelles au terrain de sport, en passant par les cercles associatifs ou les ateliers artistiques, nous recevons des invités pour qui l'écoute est bien plus qu'une posture. C'est une boussole, un modèle, une manière d'habiter le monde. À travers leurs récits, nous cherchons à comprendre comment se crée le dialogue, comment on construit le lien, comment on cohabite dans une société traversée par des désirs multiples. Car s'écouter, ce n'est pas seulement entendre, c'est accueillir, créer de l'espace, tisser du commun. Et parfois, cet espace naît d'une chanson, d'un geste, d'un silence, d'un regard. Alors prenons ce temps. Et si, pour une fois, on s'écoutait vraiment? Je suis Marion Milsan et avec Chloé Lenders, nous animons cette émission une fois par mois, avec Sidi en régie.
Bonsoir.
Oh, bonsoir.
Comment ça va, Chloé et Sidi, ça va?
Ça va, ça va.
Ah, oh, c'est cool de t'entendre. Et Chloé, ça va?
Oui, ça va très bien. Je suis ravie et heureuse de nous retrouver pour notre émission et d'avoir de nouveaux invités.
Oui, c'est vrai. Du coup, ce soir dans l'émission, et si on s'écoutait, nous tendons le micro à l'association Madar, représentée par Yanis, qui est fondatrice et présidente de l'association, et Anna, qui s'occupe de la production et de la communication. Bonsoir les filles.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien, et toi?
C'est vrai, je vais bien, merci.
Ça va, ça va.
Super. Alors...
Est-ce que... c'est la première question qu'on pose à nos invités. Qu'est-ce que vous évoque le titre de notre émission et si on s'écoutait, quel est votre rapport à l'écoute? On aime bien introduire l'émission de cette manière.
Alors le titre de votre émission et si on s'écoutait, pour moi c'est vraiment une proposition d'imaginer un monde où on s'écoute, c'est-à-dire où on fait attention aux envies, aux besoins des autres, celles et ceux qui nous entourent. Et pour moi, c'est vraiment relié aussi à l'observation. Étant quelqu'un d'assez timide et réservé, j'écoute beaucoup. Et voilà, donc je pense que c'est un peu ça, tout ça que ça évoque pour moi, le titre de l'émission.
Et toi, Anna?
Moi, je dirais que oui, c'est construire un rapport à l'autre et se détacher de soi pour aller vers le groupe, vers le commun, le collectif. Et on pourra en parler, mais je pense que c'est un peu notre mission et notre envie avec le projet Madar. Ouais.
Super, merci. Donc fondée en 2022 à Marseille par trois diplômés des Beaux-Arts, Madar, c'est une association engagée dans la diffusion de l'art contemporain et de la jeune création. À travers un fonctionnement hybride, exposition, concert, lecture, projection, performance, workshop, atelier, Madar crée un espace de rencontre entre artistes émergents et publics. L'association se donne une mission non seulement de favoriser l'accès à différentes formes d'expression artistique, mais aussi de créer un contexte professionnalisant pour les jeunes diplômés et étudiants de la région. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, Madar, c'est aussi 5 artistes plasticiens qui sont membres actifs dans l'association. C'est bien ça, les filles?
C'est bien ça, c'est ça. Exactement.
Super. Oui. Est-ce que vous voulez bien, avant peut-être qu'on commence tout ça, nous parler de vous, de votre parcours? Toutes les deux, Yanis et Anna?
Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Yanis. J'ai grandi à Londres et je suis arrivée à Marseille pour faire mes études aux Beaux-Arts, donc en 2019. Et tout le long de mes études, en fait, j'ai cherché à faire des choses en parallèle. C'est pourquoi, c'était en deuxième année de master, donc en quatrième année aux Beaux-Arts, que j'ai vraiment eu cette envie-là de faire des choses en dehors de l'école, de mettre en application tout ce qu'on avait appris pendant toutes ces études. Et donc, c'est là qu'est né le projet Madar. Je l'ai fondé donc, au départ avec deux amies qui étaient aussi étudiantes aux Beaux-Arts. Et de là est né le projet. Et aujourd'hui, j'ai fini mes études. Je continue à travailler avec l'association, mais également, je fais beaucoup de médiation culturelle. J'anime des ateliers dans des écoles primaires, dans différents types de lieux. Donc voilà, j'essaie de faire plusieurs choses. Je me cherche encore un peu. Et évidemment, je continue ma pratique artistique. J'expose de temps à autre. Voilà.
Tu es une artiste avant tout.
Oui, c'est ça.
Tu mets en lumière des artistes, mais tu es artiste avant tout.
Oui, tout à fait, c'est ça. Effectivement, le fait d'avoir fait les beaux-arts, ça, forcément, j'ai développé une pratique qui m'est propre. Mais vraiment, j'ai vraiment eu cette envie d'écrire sur les autres artistes, de découvrir le travail des autres. J'aime beaucoup le travail collectif, travailler avec d'autres personnes. Et c'est vrai que la pratique d'un artiste plasticien, en général, c'est assez. Enfin, ça peut très rapidement être solitaire. Et j'avais ce besoin-là de travailler avec d'autres personnes.
Est-ce que tu peux juste, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce terme, plasticien ?
Oui. Alors, artistes plasticiens, ce sont les artistes qui créent des œuvres visuelles. Donc, ça peut être de la sculpture, de la peinture, des installations. Pour ma part, moi, c'est des installations. Je fais de la teinture sur papier. Et ensuite, je dispose des grands lits de papier dans l'espace, histoire de faire des installations dans lesquelles les spectateurs et les spectatrices peuvent se déplacer, déambuler. Donc, voilà, c'est ce type de travail, par exemple.
Merci. Et toi, Anna.
Donc moi c'est Anna, j'ai eu mon diplôme aux Beaux-Arts il y a un an et demi et j'ai intégré l'association il y a un an. Je regardais de loin un peu les activités pendant un moment parce que ça part d'un groupe d'amis quoi. Et pareil, moi je suis intéressée, je fais de la sculpture et dans mon travail les questions du collectif et du DIY, do it yourself. Yourself et tous ces courants-là d'autogestion m'intéressent pas mal. Donc j'étais super intéressée à rejoindre Madar et à promouvoir la jeune création et créer en collectif. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Sinon, ouais, j'ai une pratique sculpturale et une pratique de l'atelier à côté de ça. Voilà. Mmh.
Et donc, vous êtes plusieurs, vous êtes cinq. Est-ce que les arts que vous pratiquez sont complémentaires, on va dire, ou se rejoignent, j'imagine, aussi, sur certains aspects
Alors, on est donc dans le collectif qui constitue l'association Madar. On est cinq artistes plasticiens, donc chacun on a notre pratique artistique personnelle, mais on ne travaille pas comme un collectif, c'est-à-dire que les questions qu'on soulève dans nos pratiques respectives sont vraiment pas liées.
Oui.
Donc en fait, on a vraiment notre vie d'artiste d'un côté et le travail en collectif au sein de l'association.
Les trois autres membres, on peut peut-être en parler ce soir aussi, c'est Florian Le qui fait de la peinture, Raphaël Garcia-Lara qui fait de la peinture et de la sculpture, et Thibaut C qui fait aussi de la peinture et de la sculpture. Mais nos questionnements sont hyper divers en fait, comme nos formes.
Voilà. Est-ce que vous êtes tous rencontrés aux Beaux-Arts ou c'est juste une bande de copains ?
Ouais, c'est une bande de copains des Beaux-Arts.
Oui, au départ, on est tous arrivés quasiment en même temps. On a passé plusieurs années à travailler dans les mêmes ateliers au sein de l'École des Beaux-Arts. Donc, c'est aussi, ça a été très naturel pour nous de finir par faire un projet ensemble. Puisque, comme on disait, Anna, elle est arrivée il y a un an. Mais en fait, ça a été par étapes. Ça s'est fait au fil du temps, au fil de discussions qu'on avait dans l'atelier aux Beaux-Arts. En plus, aux Beaux-Arts, on peut y rester tard, jusqu'à 23h. Donc, c'est vrai que c'est un endroit, je pense qu'il y a plein d'idées et de projets qui naissent. Et voilà.
Les Beaux-Arts vers Lumini ?
Oui, c'est ça.
Au cœur des Calanques pour les non-Marseillais qui nous écoutent, peut-être.
Oui, oui, pardon.
Mais c'est un lieu inspirant, c'est vrai, au cœur de la nature des Calanques.
Ouais, c'est un... Pardon.
Vas-y.
Non, c'est un super lieu qui est complètement en dehors de la ville. Donc, c'est un peu un challenge à chaque fois pour y aller. Mais une fois qu'on y est, c'est vraiment génial. Et c'est assez particulier parce que par rapport aux autres écoles en France, l'école est ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 23h. Donc, en fait, ça peut occuper toute notre vie très facilement, quoi.
C'est vrai que si tu as envie de créer, c'est vraiment un endroit qui est grand et qui permet vraiment au moins d'y rester suffisamment longtemps pour peut-être aboutir à plusieurs projets, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Cette envie justement de créer Madar, elle est partie d'une affinité artistique, d'une envie d'aller plus loin, justement, artistiquement parlant,
Oui, alors pour répondre à cette question, je dirais que, en fait, donc, comme je disais, je suis arrivée aux Beaux-Arts, donc j'ai suivi l'enseignement aux Beaux-Arts de Marseille. Et tout le long des études, on a des bilans à la fin de chaque semestre pendant lesquels il faut qu'on montre notre travail, il faut qu'on en parle aussi. Et donc il faut apprendre à poser des mots sur son travail et aussi travailler la mise en espace de ce qu'on crée. Donc il y a toutes ces questions-là déjà qu'on apprend à appréhender. Et donc en fait, au fur et à mesure des années, on finit par se familiariser avec les métiers de l'exposition, pas que celui d'artiste plasticien. En fait, on est obligé de se confronter en fait quelque part un peu déjà à la curation. Donc pendant ces moments-là, c'est des moments qui sont très intenses, très forts, et on s'entraide beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre aussi le travail des autres, puisque c'est les bilans, c'est des séances qui sont ouvertes, normalement au reste de la promo et au reste de l'école. Donc c'est là qu'on découvre aussi comment les autres parlent de leur travail. Et on fait aussi plusieurs exercices, évidemment, qui sont très scolaires, apprendre à écrire sur le travail d'autres artistes, qui sont contemporains ou non. Donc, arrivée, comme je disais, en quatrième année, je me rendais de plus en plus à des vernissages, j'essayais de me familiariser avec l'écosystème culturel à Marseille. Et en fait, plus je voyais des expositions, plus je voyais des vernissages, plus je me disais, mais en fait, nous, on fait un peu ça aussi déjà aux Beaux-Arts, même si on est encore étudiant, mais on pourrait vraiment s'amuser à faire des propositions comme ça. Et je me souviens qu'un jour, donc c'était un petit peu fin 2022, où je me rends à un vernissage avec deux amis. Et je leur fais part de cette idée que j'avais eue. Je m'étais dit, mais en fait, on pourrait, nous, faire ça. Il nous manque juste des lieux, en fait, en centre-ville. Mais on fait déjà un peu ça à Marseille, aux Beaux-Arts. Et on en discute. Et puis finalement, Maya, qui est une amie avec laquelle j'ai fondé l'asso, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais bah viens, on le fait. Viens, on le fait vraiment, en fait. Elle dit, c'est une super bonne idée. Je vais t'aider. On y va, on se lance dedans. Et donc, à ce moment-là, on s'est renseigné sur comment on fonde une asso, etc. Donc, tout allait très, très vite. C'est-à-dire que on a envoyé nos statuts et dès le premier essai, ça a été validé. Et en fait, là, on était lancé dans l'aventure. Maintenant, il fallait assurer.
Et l'association, du coup, elle a une place au sein des Beaux-Arts aujourd'hui ?
Alors, on a...
Ou elle est complètement indépendante ?
Ouais. On est très liés aux Beaux-Arts parce que forcément notre réseau est essentiellement composé de gens qui sont passés par les Beaux-Arts ou en tout cas qui sont autour qui sont liés quelque part aux Beaux-Arts d'une façon ou d'une autre. Donc on n'a pas de lien direct avec l'école en tant que telle, mais les artistes qu'on expose, la plupart soit sont encore étudiants, soit sont ressortissants des Beaux-Arts de Marseille. Donc on essaie de mettre en avant le travail d'artistes émergents et émergentes, forcément on fait appel à des personnes qui sont encore aux Beaux-Arts ou qui en sortent. Et c'est arrivé qu'on fasse des sortes de, pas de partenariats, mais que l'école nous soutienne par contre pour des projets par la suite. Par exemple, nous mettre à disposition du matériel, des choses comme ça. Donc on a quand même eu un soutien de l'école à certains moments.
Et ce mot MADAR, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient
d'où ? L'histoire.
Alors, MADAR, c'est... Alors, bon, à chaque fois, on nous pose la question et la réponse, elle est un peu difficile à répondre parce que, en fait, donc, je vous disais, on était un groupe d'amis au départ à créer l'association et on se creusait vraiment la tête à essayer de trouver un mot qui ait du sens pour nous, qui à la fois soit pas une asso déjà déclarée, etc. etc. Donc, c'était plein de discussions, on a écrit plein de mots, on en a inventé et au final en fait on a décidé d'opter pour MADAR qui en fait était pour moi un mot que j'avais inventé il y a quelques années déjà qui était un mélange en fait entre mon nom de famille et mes origines. Donc c'est un mot complètement composé en fait. Et au final, on se disait que ça sonnait bien, qu'il y avait... après, c'est arrivé par la suite, on se disait que c'était assez amusant. Il y a MAD, il y a art dedans. C'est un peu, ça peut être lu de plein de façons différentes. Et plus tard, on a appris qu'en arabe, c'était un mot qui voulait dire en fait... orbite, en fait, ça veut dire quelque chose... ou comme un phare, on peut dire qu'un phare... on peut utiliser ce terme pour parler de ce truc circulaire autour duquel on tourne. Et voilà, donc c'était une bonne coïncidence.
C'est une belle chance, heureusement que c'est ça.
On s'est rendu compte. Le jour où un ami nous a dit, vous savez que ça veut dire quelque chose en arabe, on a fait, ah bon.
Quoi donc.
Et donc, ça s'est bien tombé, heureusement. Ça restait poétique et ça collait au projet quand même.
Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est... Enfin, je me suis demandé même, tu vois... Enfin oui, les abréviations, tu vois, des lettres, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a, y a un sens caché là-dedans. Mais c'est bien parce qu'il y a plusieurs sens, finalement.
Et c'est vrai que ça éveille la curiosité. Souvent, le titre d'un projet, il y a déjà une histoire avant qu'elle commence,
Mad art, j'avais pas pensé à ça, en effet. Parce que j'avais pas du tout l'anglicisme là, à ce moment-là, mais ouais, pas mal. Et alors, bah, du coup, si je comprends bien, vous vous êtes rencontrés... aux Beaux-Arts et vous êtes devenues copines. Donc toi, Anna, t'as intégré Mada aussi parce que tu suivais l'association depuis quelques temps et tu t'es dit let's go.
Oui, exactement. Bah ouais, je suivais et puis je donnais des coups de main un petit peu dans les moments de des moments de rush, un peu de vraiment quand c'est l'événement et qu'il faut avoir des bras et faire un peu de régie. Et puis après, bah, Maya et Yanis m'ont proposé d'intégrer vraiment en faisant de la com parce que c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, j'ai une pratique de faire des affiches, faire des flyers et tout ça. Donc ça me plaisait de prendre ce rôle-là dans l'assaut. Et puis, de fil en aiguille, on a un peu différents pôles d'action, mais le pôle production qui encadre plein d'autres choses prend quand même pas mal de temps, quoi. Dont les transports des œuvres, les montages d'expositions... la régie de avoir de la nourriture pour les 4 jours, prendre soin des artistes, enfin toutes ces choses-là en fait un peu techniques. Donc je prends part à ça et puis sur certains projets je prends part aussi à la curation quand j'ai des envies d'artistes.
Oui, vous allez nous expliquer comment ça se passe pour sélectionner déjà les artistes parce qu'il y a déjà ce volet-là qui semble hyper important. Et puis comment on monte une exposition,
est-ce que vous faites une résidence, est-ce qu'il y a plusieurs formes de ce que vous proposez?
La particularité du projet, c'est qu'on n'a pas de lieu en fait, donc à chaque fois on est en itinérance et donc ça peut mettre en fait vachement de temps entre les événements parce que on met pas mal de temps à prospecter des lieux, à avoir des rencontres. Et puis comme on est complètement autogéré et qu'on n'a pas de subventions, c'est que des lieux qu'on nous prête, comme on parlait.
Si vous aviez des subventions, aucune?
Non, non. Et donc, mais on aime bien aussi s'inscrire dans quelque chose où c'est pas on débarque quelque part et on loue un espace, c'est pas non plus ça qui nous intéresse, donc... c'est chouette pour nous de se dire, en fait, le lieu, ça va être une rencontre avec quelqu'un, avec un projet, ou plein de choses, en fait. À chaque fois, c'est des anecdotes hyper différentes pour chaque événement qu'on a pu faire.
Parce que souvent, en plus, en préparant l'émission, on nous disait que le lieu, vous ne l'avez pas pour une journée, une soirée. Souvent, c'est quand même une semaine ou un mois.
Plutôt une semaine, la moyenne.
Ouais. Oui, en fait, en général, c'est des formats très, très courts. Donc, comme disait Anna, on nous prête des lieux, on nous met à disposition des espaces. Et nous, on a quelques jours pour investir les lieux. Les expos sont très, très courtes aussi. Elles restent ouvertes très peu de temps. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un très gros challenge.
Et vous choisissez d'abord le lieu ou l'artiste ou les deux en même temps?
C'est d'abord le lieu, en fait.
D'abord le lieu.
C'est le lieu qui décide.
Faut que tout le monde soit prêt après.
Ouais.
Let's go, c'est maintenant.
C'est exactement ça. C'est que du coup, les projets se montent en très peu de temps.
Ouais, c'est des temps records.
Voilà. Donc c'est très très intense à chaque fois qu'on se dit qu'on va y aller, quoi. Mais du coup, non, c'est vraiment le lieu qui décide après les artistes qu'on va inviter et qu'est-ce qu'on va produire comme exposition au niveau de la scénographie, au niveau du sens, avec l'histoire du lieu, voilà quoi. Donc c'est vraiment deux temps distincts et c'est ça, je pense, qui fait un peu la différence par rapport à d'autres projets, c'est que l'exposition se fait avec le lieu d'abord.
Vous avez une obligation une fois, enfin une obligation. Est-ce que vous mettez vous une certaine rigueur au fait que ce soit une fois par mois? Est-ce que...
Non, c'est pas... Heureusement, c'est pas une fois par mois.
C'est pas votre job, en fait.
on fait une moyenne de 4 événements par an, je dirais.
Oui, d'accord.
Il y a des années où on arrive à faire plus, des années où malheureusement on fait moins. Mais en fait, comme on disait, ça dépend vraiment des lieux qu'on arrive à trouver. Si le lieu nous inspire quelque chose ou non. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, le travail au préalable, donc, c'est trouver un lieu, ensuite se renseigner sur son histoire. Comme on expliquait, je ne sais pas si on l'a bien dit, mais on expose donc pas que dans des galeries, pas que dans des lieux qui sont destinés à recevoir des expositions. Et c'est là où ça nous intéresse aussi, parce que donc, on rencontre des personnes qui sont propriétaires d'un lieu, qui ne travaillent pas du tout dans la culture parfois, et qui donc, nous font confiance, qu'on rencontre et à qui on expose un peu le projet. Et en fait, c'est là que ça devient très beau, parce que les personnes nous disent bah, « Allez-y, je vous fais confiance. »
Vous avez des anecdotes de lieux un peu loufoques ?
Par exemple, ouais, on a eu une des premières très grosses expositions qu'on a fait avec Madar. C'était la première année, je crois, en 2023, où vraiment on faisait
c'était 2024.
Ah oui, 2024, pardon, ouais. Je me perds. Et donc, on a eu la chance de faire une exposition, enfin, en tout cas, de monter un très grand événement dans une ancienne usine de textile marseillaise. Et c'était vers Chute-la-Vie. Et en fait, c'est une étudiante des Beaux-Arts qui était en première année, qui s'appelle Teresa. Elle ne faisait pas du tout partie de Madar. Et en fait, un jour, elle va sur le Bon Coin et elle voit quelqu'un qui donne une échelle. Donc forcément, artiste aux Beaux-Arts, tout matériel gratuit, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc elle y va, elle est super contente. Et sur place, elle se rend compte que le rendez-vous, il est dans une ancienne usine, donc, qui est complètement vidée, puisque c'était une usine qui allait être détruite. Et elle rencontre le propriétaire qui lui explique un peu l'histoire de l'usine. Et en fait, elle voit juste des grands espaces. Et en fait, elle ose. Elle lui demande, elle lui fait « Mais est-ce que tu serais OK qu'éventuellement on fasse une expo ? Moi, je suis aux Beaux-Arts. Je connais plein d'amis qui seraient hyper chauds de faire un projet ici. » Et lui a dit « Pas de souci. Moi, de toute façon, je quitte les lieux. L'usine va sûrement être détruite. Vous avez carte blanche. Vous faites ce que vous voulez. » Et en fait, elle était un peu désemparée parce qu'elle faisait... elle ne faisait pas partie d'un collectif ou d'une association qui organisait ça, puis c'était un très très gros projet. Donc elle a fait appel à nous, nous aussi on était au tout début de notre activité, puis au départ on n'était que trois filles, donc c'était un vrai challenge, mais on s'est dit allez on relève ce défi-là. Donc on était trois, pas trop expérimentées, et on a quand même réussi à monter un super beau projet qui s'est monté sur une journée entière, où on avait donc une exposition avec plus de 20 artistes, je crois 21 artistes, je me souviens bien.
Ah oui, d'accord.
C'est impressionnant.
Ah oui.
Donc tous issus des Beaux-Arts, et d'ailleurs le deal c'était le propriétaire de l'usine nous a expliqué qu'il y avait plein de matériaux encore à disposition, qu'il allait emmener à la benne, et notamment des rouleaux de tissu issus de son activité, et qu'il nous mettait à disposition. Donc l'idée c'était qu'on pouvait faire travailler les artistes sur place et leur proposer de créer des nouvelles œuvres avec les matériaux qu'on leur mettait
comme à disposition. Comme une résidence en fait.
Ça a été un peu ça, ouais. Et voilà. Et en fait, le lieu était tellement grand, donc on a fait une grande partie exposition. On a fait aussi un espace qui était plus brocante, vide-grenier, justement, pour aider le propriétaire à finir de se débarrasser de ses dernières affaires. Donc ça a été vraiment une journée très familiale, au final. Et on avait aussi... on a eu une table ronde où il y a plusieurs artistes et actrices culturelles qui sont venues parler de l'écologie dans l'art. Et on avait évidemment un petit coin buvette. On a servi à manger toute la journée et c'était super sympa.
Magnifique. Bravo.
Merci.
Je sais pas, vous êtes fiers de vous. C'est incroyable.
C'était une super belle expérience. En fait, c'est ça. C'est maintenant qu'on regarde un peu les projets qu'on a réussi à mener avec zéro connaissance au départ et juste... Et
pas d'argent, non ?
Pas d'argent.
C'est ça. C'est que tout ça, la table ronde, toutes les personnes étaient bénévolement... Enfin, bénévolement... Oui. Ah.
Alors,
vous avez compris
bénévolement.
Merci. Oui.
Heureusement, en fait, on a quand même la chance qu'au Beaux-Arts, je crois, on a vraiment, on a cette envie, en fait, de créer des choses qui est plus forte que nous. Donc, en fait, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes qu'on rencontre aux Beaux-Arts sont prêtes à participer et à prendre part à des projets comme ça. Et c'est aussi là que, en fait, ça, pour moi, ça compte, c'est qu'en fait, c'est un rapport très horizontal aussi avec les personnes avec qui on travaille, puisque il n'y a pas d'argent, mais nous non plus, en fait, on n'est pas payés.
Ouais.
Et c'est très horizontal parce qu'en fait, au final, on était étudiants à ce moment-là. On était vraiment comme les personnes qu'on invitait à travailler avec nous. Et aujourd'hui encore, je pense qu'on a encore ce rapport très horizontal avec les personnes avec qui on travaille parce qu'on n'a pas du tout la prétention de dire qu'on a fait une formation pour faire tout ça. C'est que de la débrouille beaucoup de détermination et une envie très très forte de mener des projets, des grands projets.
Et est-ce que c'est des événements, parce qu'il me semble en préparant l'émission que tu nous disais que le dernier événement était pas forcément ouvert au grand public, est-ce que le propos de Madar c'est de rendre accessible au plus grand nombre ces différentes formes d'art. Oui. C'est quoi finalement l'objectif principal de Manar?
Alors, je dirais que l'objectif premier, c'est de mettre en avant le travail d'artistes émergents et émergentes. Donc ça, c'est notre mission principale. C'est vraiment donner l'opportunité à des jeunes artistes d'exposer, ce qui n'est pas facile, en fait. Ensuite, quand on quitte l'école, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est un milieu très compliqué et dans lequel on n'a pas beaucoup d'opportunités de travail. Mais donc voilà, ça, c'est l'objectif principal. Et ensuite, évidemment, c'est le fait de pouvoir montrer ces expositions à un public très diversifié, parce que, enfin, en tout cas pour ma part, et je pense que c'est pour ça aussi que le projet me ressemble, mais je déteste l'entre-soi. Et même dans ma pratique personnelle, je dirais que j'ai toujours cherché à créer quelque chose qui puisse être perçu par tout le monde, pas compris, parce que je veux pas qu'il y ait besoin de clés de lecture pour comprendre un travail. Donc pour moi, c'est vraiment des questionnements qui gravitent autour de moi. Et le projet, le fait de faire ces expositions dans divers types de lieux, ça amène aussi, enfin ça désacralise l'exposition, ça désacralise un peu le vernissage. J'espère qu'on y arrive un maximum, c'est-à-dire faire des événements qui sont pas intimidants, en fait, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de venir au vernissage puissent se sentir à l'aise. C'est pour ça qu'en général, on essaye de mélanger dans les événements, il y a des œuvres,
oui,
il y a souvent de la musique.
Il n'y a pas que des expositions.
Voilà. C'est aussi festif. Ouais.
Oui, c'était un peu ma question. Comme vous disiez que vous exposiez beaucoup d'étudiants, en tout cas d'artistes issus des Beaux-Arts, comme je sais que l'inclusivité, c'est aussi quelque chose qui est important dans votre projet, comment on deal du coup entre ne pas vouloir entretenir un entre-soi et à la fois d'exposer des artistes issus principalement des Beaux-Arts?
Ah oui.
Ouais. Je disais, oui, c'est ça. Je pense que déjà, le fait que ce soit à chaque fois des lieux différents, à chaque fois, donc on disait, c'est une rencontre avec un propriétaire ou une propriétaire, ce qui fait qu'en fait, ça amène un autre public, parce que parfois, c'est des lieux qui ont une autre activité le reste du temps. Donc, les habitués, ça peut être les voisins, les gens du quartier qui entendent, de toute façon, ils nous voient, hein, pendant les montages d'exposition, on nous voit descendre des œuvres des camions, et en général, les gens sont curieux. Ils viennent nous voir, qu'est-ce qui se passe ici, et on leur explique, et ils nous disent on passera, c'est super. Et puis en fait, donc je pense que comme ça déjà il y a un public assez divers qui vient, et également par la communication, j'imagine on essaie de trouver des stratégies de com qui permettent de toucher un plus large public. Anna peut-être en parlera mieux.
Oui, moi je suis assez attachée au fait de sortir aussi des réseaux sociaux et du téléphone, donc on essaie de aussi faire passer notre communication par la rue, par le collage, par ce genre de pratiques-là. Je pense que ça marche, je pense qu'il y a quand même des gens qui nous connaissent pas et qui sont pas justement dans ces réseaux fermés de l'art contemporain, qui sont déjà venus à des événements juste en voyant des affiches, et on a de la chance quand même à Marseille d'avoir une culture du collage assez présente et une communication qui est forte par ça, quoi.
Et je me dis, je pense aussi que le fait d'inviter, comme on disait, des musiciens, ça fait aussi qu'ils amènent leur public à eux. Donc ça permet aussi de créer des moments où, en fait, des personnes qui ne se seraient pas forcément déplacées pour voir une exposition, mais pour un concert, finalement, se retrouvent à regarder l'exposition et inversement, en fait. Donc permet à tout le monde de découvrir des choses nouvelles.
Justement, ça vient à ma question. J'ai deux questions, en fait, maintenant. Mais du coup, la première, c'est comment vous mettez d'accord, justement, pour les personnes à contacter, les artistes qui vont venir, en termes de, est-ce que vous avez vraiment à cœur de différencier les types d'art différents? Et une autre question, quand tu parlais justement, tu disais des actions de collage, etc., etc., j'imagine que ça, c'est aussi sur vos frais perso, parce que en fait, si vous n'avez pas de subvention, je sais pas trop comment.
Ouais,
alors quelle question,
on répond. Je pense qu'on peut peut-être la deuxième la première, peut-être on s'étalera plus longtemps dessus, mais la deuxième, enfin par rapport à aux frais, parce qu'en fait les collages c'est qu'une part, parce qu'on essaie aussi de rémunérer les artistes qu'on invite, même si c'est ultra symbolique, et puis on a toujours plein d'autres frais qui viennent pour chaque événement, mais on a de la chance maintenant de cette fée. Au fur et à mesure, depuis un an et demi,
petite trésorerie.
Une petite trésorerie, c'est ça. Mais en fait, ça fonctionne uniquement par la vente au bar et puis les adhésions. Donc c'est pas hyper viable comme système, mais pour l'instant, ça fonctionne quand même. Oui. On arrive... enfin, les membres de Madar ne sortent pas non plus de leur poche pour imprimer des affiches et aller les coller. Enfin, si, il y a quand même le physique n'est pas encore rémunéré, mais voilà.
Oui, l'idée c'est qu'on s'engage tous, on travaille énormément, mais on fait tout pour qu'on n'ait pas à nous à payer en plus, parce que c'est-à-dire que c'est déjà un travail immense. Ouais. Et comme on disait, voilà, ça suffit. Enfin, la vente au bar et les adhésions permettent de financer en général le projet qui suit et de rémunérer. Symboliquement, les artistes qu'on invite. Mais voilà.
Ma deuxième question.
Oui.
est-ce que vous mettez justement, vous réunissez régulièrement et se dire, OK, sur quel artiste on a envie de partir?
Ouais. Alors, oui. Par rapport au choix des artistes, il y a plusieurs, on a fait différemment en fonction des lieux. Par exemple, je disais pour la grande usine, comme on a fait un appel à candidature. Qui a été posté sur les réseaux. Donc en fait, on a eu plein de propositions et ensuite on a pu choisir en fonction de la cohérence au projet. Donc ça, par exemple, donc ça peut être des appels ouverts. Et parfois aussi, quand le lieu il a une histoire très marquée et que on veut tourner vraiment la curation dans un sens qui nous semble évident, on fait appel à des artistes qui nous sembleraient bien aller dans cet espace-là. Et par la suite, d'ailleurs, en fonction des œuvres qui sont exposées dans l'espace, ça va être soit des œuvres qui sont déjà existantes, soit parfois c'est aussi un travail avec l'artiste de créer spécialement pour le lieu. Mmh. Et donc dans ce cas-là, il y a un travail où on est beaucoup plus investi aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une création de quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà, toujours dans un rapport très horizontal, c'est-à-dire qu'on n'impose rien en fait, on n'a pas cette prétention-là.
Mais... Il y a des critères quand même d'âge par exemple, parce que vous êtes quand même, l'asso elle est quand même assez basée sur le soutien de la jeune création, est-ce qu'il y a un critère?
Je pense qu'il y a une petite nuance, jeune création ne veut pas dire jeune en âge quoi.
C'est vrai ça.
C'est plutôt début de carrière quoi.
Oui, vraiment artiste émergent, émergente, c'est-à-dire qu'on peut être un artiste émergent ou émergente et avoir 50 ans quoi en fait. C'est juste en début, je dirais, de carrière, les personnes qui n'ont pas eu trop l'occasion justement d'exposer en dehors de l'école, en fait c'est super de leur proposer ça.
Et qui ont une envie de professionnalisation, quoi, envie de continuer dans ces pratiques-là. Et... Mais je pensais aussi par rapport à cette question de proposer des artistes, comment on se décide. Enfin, je pensais qu'on a plein d'artistes qu'on aimerait exposer, mais on n'a jamais trouvé le lieu qui correspondrait à leur travail. Donc en fait...
Il faut quand même qu'il y ait une histoire, un lien entre le lieu et l'artiste.
Oui, c'est vraiment...
comme on n'expose pas dans des lieux, on n'expose pas dans des white cubes, c'est pas du tout des galeries avec murs blancs, c'est pas des endroits neutres qui sont faits pour mettre en avant un travail, et ensuite le travail, il parle de lui-même. Là, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un dialogue entre l'espace et les lieux, parce qu'en fait, parfois, c'est des lieux complètement en friche, on peut pas dissocier l'espace du travail qui est exposé dedans. Donc c'est vraiment très lié, et oui, comme disait Anna, en fait, parfois on attend juste de trouver le bon match entre un artiste et un lieu.
Les matchs.
Ouais. Et du coup, est-ce que Madar a un ancrage, on comprend, très marseillais, mais est-ce que vous avez aussi cette volonté d'aller en dehors du territoire marseillais, justement, d'aller vers des artistes sud ou de tout le territoire national? C'est quoi votre lien avec les autres villes en France, par exemple?
Pour l'instant, on a effectivement fait des événements que à Marseille, mais ça c'est aussi dû au réseau qu'on a, qui est exclusivement marseillais. Là, ça va faire 6 ans qu'on est là, qu'on rencontre que des gens qui sont à Marseille. Après, on n'est pas fermé à l'idée de éventuellement faire quelque chose ailleurs à un autre moment. Au contraire, en fait, ça serait que de nouvelles aventures et pourquoi pas à l'étranger, même un jour, qui sait.
Est-ce que tu parlais de Londres tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un lien avec Londres aussi? Tu as un attachement peut-être particulier?
Ouais, moi j'y ai vécu 10 ans là-bas, donc c'est une ville qui m'est très chère. Mais par exemple, je sais que le projet Madar, il peut exister, en tout cas de ma vision et des endroits dans lesquels j'ai vécu, j'ai l'impression que c'est la seule ville dans laquelle ce projet il aurait pu se réaliser. Parce qu'en fait, autant de lieux vides, autant de personnes qui sont prêtes à nous ouvrir les mains, ouvrir les bras, pardon, à nous tendre la main et à nous...
On ouvre tout.
Voilà, nous ouvrir les portes, tout. Exactement, en fait, ça c'est possible, je pense, principalement parce qu'on est à Marseille et parce que c'est vraiment aussi cette énergie-là dans une ville où on peut, enfin il y a beaucoup beaucoup d'initiatives culturelles et beaucoup d'initiatives de plein de types de projets d'ailleurs, que ce soit culinaire, enfin de restauration, etc. Donc ça a été possible, je pense, principalement parce qu'on est là. Et je pense que voilà, moi j'aimerais beaucoup beaucoup qu'on fasse une exposition à Londres un jour, mais
non, parce que
fait,
la scène artistique à Londres, elle est incroyable, elle est hyper riche.
Oui, mais alors dans ce cas-là, trouver un lieu gratuitement, sans financement...
C'est vrai que Marseille offre un champ des possibles qui est assez extraordinaire,
tout à fait.
Même par rapport à d'autres villes en France.
Oui, même Paris, je pense
c'est
que ce soit la même chose. Mais on a invité des artistes qui venaient de Paris aussi, mais c'est plus délicat parce que quand même, on tient à ce que les personnes qu'on invite soient au minimum rémunérées, enfin qu'il y ait... mettre un point d'honneur sur ça, de se dire que bah, c'est un travail, c'est pas, on peut pas demander aux gens de travailler gratuitement, à part nous bien sûr, bon bah là, mais du coup inviter des artistes d'autre part d'ici, ça veut dire aussi bah, défrayer, pouvoir ramener les pièces, faire descendre les pièces, accueillir l'artiste pendant quelques jours, tout ça c'est
un coût.
C'est un coût, en fait. Et ça, c'est une réalité qu'il faut assumer. On ne peut pas aller à l'encontre, je pense, de nos capacités, quoi.
Quand vous faites des performances, j'imagine bien, du coup, que c'est assez ponctuel. Quand c'est une exposition qui dure, justement, une semaine, comment vous faites pour la permanence ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se...
En général, bah, c'est encore nous, c'est l'équipe. On se divise les journées et on y va sur place. Donc, et en général, ce qu'on fait aussi, c'est sur rendez-vous. Comme ça, on peut aussi s'éviter d'être des journées entières dans un endroit. Parce que souvent, les gens se déplacent plus quand il y a un rendez-vous.
Et en fait, surtout si c'est des lieux un petit peu originaux, on n'est pas forcément à même de savoir qu'ici, il y a une expo, par exemple.
C'est ça.
Et on peut acheter certaines pièces ou elles sont juste exposées ?
Alors bien sûr, c'est super si les
acheter. Acheter.
Non mais enfin c'est sûr que en fait de toute façon les artistes plus tard, enfin en fait ça fait partie des choses qui sont importantes de pouvoir vendre son travail. Donc pour nous s'il y a des propositions d'achat, c'est super. Ça veut dire que l'artiste a pu trouver peut-être quelqu'un qui pourra. Enfin en fait comme c'est un milieu assez précaire aussi pour la plupart d'entre nous le milieu artistique, c'est super si quelqu'un veut acheter. Pour l'instant c'est pas arrivé, mais parce que aussi c'est des coûts, c'est des prix assez élevés. Les œuvres en général sont pas accessibles, enfin peuvent pas être achetées par tout le monde. Donc il faut vraiment que ce soit des coups de cœur, etc. Et puis de toute façon on se présente pas vraiment comme une galerie. Donc je pense pas que le public qui vient à nos événements vienne pour acheter.
Oui, c'est des curieux, c'est pour s'inspirer aussi. C'est aussi important.
J'imagine que vous aussi, à force de travailler avec plein d'artistes comme ça différents, de côtoyer aussi des formes d'art différentes, ça doit nourrir aussi votre propre.
Carrément, ouais, c'est hyper enrichissant, même dans la pratique personnelle, ouais. Enfin, moi, j'ai remarqué là d'avoir passé un an vraiment dans ma dart à lire des portfolios, à entendre des artistes parler de leur travail, faire des rendez-vous, aller en atelier. Quand je suis revenue un peu plus dans ma bulle de prod perso, j'ai vraiment senti la différence en fait. Même juste écrire sur mon travail, je me suis dit, ah ben en fait, on a envie d'en savoir un peu plus. On veut... Et du coup, c'est hyper enrichissant pour tout parce que c'est aussi... ça nous fait aussi travailler pour nous, quoi.
Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, vous apprenez déjà aux Beaux-Arts à parler de votre travail. Donc, c'est une chose quand même de mettre des mots sur pourquoi j'ai créé ça, ou etc. Et puis aussi d'écouter les autres parler de ce travail. Donc, au final, l'écoute, on revient à ça quand même, est vachement au centre de déjà pourquoi moi je crée et qu'est-ce que je veux dire de mes créations. Et voilà, apprendre à écouter aussi le travail des autres et comment ils parlent de eux, leurs œuvres. Je trouve que... Enfin, au final, c'est une espèce de boucle, finalement.
Non, mais tout à fait, parce qu'en plus, c'est vrai qu'en général, on écrit un texte sur sa pratique personnelle, et en fait, on le modifie très peu, j'ai l'impression. On a l'impression que ça correspond toujours à notre travail, alors parfois notre travail, il a évolué. Donc le fait de constamment, en fait, découvrir le travail de d'autres personnes, d'en parler, d'en discuter, ça remet nous-mêmes en question notre propre texte qui est dans notre portfolio. Et là, on se dit, ah, mais en fait, c'est plus tout à fait ça que je montre dans mon travail maintenant. Donc il faudrait que je le modifie, etc. Donc c'est vraiment un travail constant et ça nous permet de rester aussi vif à ce niveau-là, quoi. On continue à se poser des questions sur nous-mêmes aussi, quoi.
Il y a des moments où vous avez eu envie de travailler en collaboration, parce que de ce qu'on comprend, vous travaillez plutôt seul sur vos projets. Est-ce que vous avez eu envie de travailler avec d'autres à certains moments?
Ça nous arrive de travailler un peu en collaboration. Le dernier événement qu'on a fait, c'était dans un lieu qui s'appelle Société Étrange, qui est Boulevard de la Libération. Et c'est un lieu qui est tenu par un artiste. À la base, c'est son atelier. Et depuis un an, il l'ouvre un peu en mode galerie au public. Donc là, c'était vraiment un moment de collaboration parce qu'il y avait une entité propre à ce lieu, représentée par Bertrand. Et après, on a envie, ouais, je pense, de collaborer même avec, pas forcément des lieux, mais des personnes qui écrivent, des personnes qui font le...
Je voulais dire, dans vos domaines respectifs, par exemple, toi, tu fais de la sculpture.
Oui.
Tu me disais, est-ce que tu as eu envie de travailler sur tes projets avec d'autres en collaboration, comme vous êtes inspiré par beaucoup autour de vous, finalement, dans ce projet aussi. Peut-être Yanis aussi.
Ça m'est arrivé de travailler en collaboration. Je pense que ça dépend des moments, parce que j'ai l'impression que c'est aussi un retour à soi, qui pour moi est important, ma pratique. Même encore plus maintenant, je pense, en étant investi dans pas mal de projets associatifs, dont Madar, je me dis, bon, bah, ça, c'est le moment où je reviens complètement à mes choses et mon monde, et parce que c'est quand même hyper intime. Ma pratique de sculpture, en tout cas artistique. Mais par contre, oui, il y a des moments, des rencontres d'amis, d'artistes avec qui j'aurais envie de bosser. Et ça, le duo, le collectif, c'est d'autres moments de travail qui, dans tous les cas, sont hyper enrichissants et importants. Je pense notamment pour des appels à candidature, pour des résidences ou des expositions. Des fois, je me dis, ah, mais j'aimerais trop aller bosser sur ce projet-là avec telle personne.
Moi, pour ma part, mon travail, il est pareil, très, très, très intime, très personnel. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de personne avec qui créer vraiment une œuvre à quatre mains. Néanmoins, ce que ça m'a vraiment donné envie de faire, par contre, ça a été d'assister des artistes, donc d'aller dans leurs ateliers et de les aider, en fait, à concevoir une pièce. Donc je suis allée auprès de plusieurs artistes, que ce soit dans des stages ou sur des courtes périodes pour un projet en particulier. J'ai pu assister des artistes et là, vraiment m'immiscer dans leur travail, le comprendre, etc. Donc peut-être moi, dans la création collective d'œuvres plastiques, ce serait plutôt dans ce contexte-là.
De ce que je comprends, donc, vous étiez trois au départ. Est-ce que donc, toi, t'étais là au début. Les deux autres personnes qui étaient là au début aussi avec toi sont parties. Parce que je me suis dit aussi, en fait, vous allez aussi avoir votre vie perso qui vont faire que peut-être vous allez déménager, peut-être que vous allez... Enfin, de ce que j'entends, Madar ne peut pas exister en dehors de Marseille et j'en ai bien conscience, du coup, tout s'explique. Mais est-ce que du coup, il faudra passer le bébé à quelqu'un si jamais tu pars de Marseille, par exemple?
Oui, alors c'est vrai que pour l'instant je suis encore là. Et les Maya et Barbie, avec lesquelles j'avais fondé l'association, elles sont parties toutes les deux dans leur chemin de vie respectif, qui ont fait qu'elles n'ont pas pu, que ce soit, en fait, l'une a déménagé, l'autre est partie dans un domaine complètement autre que le milieu culturel. Donc au final, il y a eu une transition où les autres sont arrivées à ce moment-là, mais voilà. Et bien sûr, l'idée, c'est que, en fait, si un jour je dois partir, bien évidemment que l'association continuera à exister, j'imagine, puisque là déjà on est cinq et on pourra être plus. Je sais que c'est une asso qui a déjà pas mal bougé en trois années d'existence et j'espère que c'est un projet qui perdurera. Après, même si je peux continuer à être là sans être physiquement à Marseille, ce sera aussi un plaisir. On verra comment
Est-ce
ça
que ça vous a appris sur vous personnellement, c'est-à-dire punaise, je pensais pas que j'en étais capable et en fait je l'ai fait, et de développer en fait des compétences et puis d'avoir confiance en soi aussi finalement.
Ouais, complètement. Parce que en fait voilà, quand on a fondé l'asso, j'avais 23 ans. Donc je savais pas du tout dans quoi je m'engageais, en fait. C'est-à-dire que l'idée de monter des expositions, ça me paraissait séduisant et je me disais, ah, super, en fait, on va s'éclater, ça va être comme à l'école mais dehors et on va rencontrer encore plus de monde. En fait, pas du tout. Là, on a dû se confronter à des questions administratives, etc. Donc vraiment une gestion de l'organisation, et là ça a été des vrais challenges, on a dû se surpasser et dans des temps records. Et donc avec du recul, moi je suis hyper fière de ce qu'on a réussi à réaliser jusqu'ici. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, donc c'est trop beau aussi de voir qu'on a réussi à travailler ensemble. Et en plus, faut quand même ajouter qu'on est un groupe d'amis, donc en plus c'est un peu comme travailler avec la famille, mais on a réussi à gérer.
C'est pas entretué. Voilà.
Ouais, et on arrive quand même à tenir le coup, à réfléchir ensemble, à agir ensemble. Et ça, c'est super. Là, même aujourd'hui, passer à la radio, on se trajet en arrivant, je me disais, mais c'est super. Si j'avais su qu'un jour, on nous inviterait pour parler du projet, j'aurais pas cru. Mais,
est-ce qu'à un moment donné, à des moments, vous avez eu envie de baisser les bras, de tout arrêter? Parce que c'est intéressant aussi de parler des projets, ce qui est les succès, et c'est super. Forcément, il y en a et ils existent, mais de parler aussi de ce qui a été compliqué, de ce qui a été dur pour les auditeurs et auditrices qui nous écouteraient et qui voudraient lancer un projet ou qui sont au milieu de leur projet et qui se disent « je ne sais pas si je continue ».
Ouais, il y a plein de moments où c'est super dur en vrai parce que ce que ça peut nous apprendre, moi ce que ça m'a appris sur moi-même, c'est vraiment prendre le temps avec les autres, se dire « ok, on travaille en collectif, ce n'est pas toujours simple », apprendre à écouter, se mettre un petit peu en arrière et tout ça, ça peut être vraiment challengeant. Et il y a des moments on se dit mais pourquoi on fait ça déjà en fait. c'est dur parce que aussi on bosse beaucoup et qu'on n'a pas de, je pense, le fait de la rémunération elle est dure parce que c'est énormément de temps. Et puis il faut bien pouvoir manger et tout ça, et pouvoir continuer aussi toutes nos autres activités qu'on veut faire. Mais en même temps, honnêtement, on se l'est posé il n'y a pas si longtemps que ça, cette question, parce que là, on va fêter nos 3 ans et on se demandait, on en est où ? Est-ce qu'on prend encore du plaisir ? Parce que l'idée, c'est quand même prendre du plaisir, se dire qu'on est là parce qu'on a envie de s'amuser, on a envie de monter des projets avec des amis, des artistes. Et c'est vrai qu'à des moments, on perd un peu ce cap-là, mais...
mais... On se regarde.
Non, mais... on arrive à continuer. Enfin, je pense que oui, se recentrer sur les objectifs et pourquoi on le fait, c'est hyper important. Et je pense que les initiatives comme ça, autogérées, collectives, elles sont hyper nécessaires et précieuse, et il faut en prendre soin pour qu'elle continue à occuper nos vies, quoi, parce que sans ça, ce serait beaucoup moins simple, je pense.
C'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de tout abandonner, parce qu'en fait, on a surtout des périodes qui sont extrêmement intenses, en fait, on revient toujours à cette question-là de la rémunération, parce que nous, on est hyper volontaires et on s'est habitués presque, on trouve ça normal, nous, de donner toute notre énergie, tout notre temps pour mener à bien ces projets. Par contre, demander de l'aide, ça, on le fait pas du tout, et c'est vrai qu'en fait, on se retrouve très très vite débordé, complètement débordé par l'organisation de l'événement, et que ce soit même le soir même du vernissage, en fait, il faut courir partout, et en fait, à la fin, physiquement même, on est vraiment fatigué, donc il y a vraiment des moments où, à la fin de chaque événement, on tombe malade, quoi.
Est-ce que vous faites un appel à bénévoles?
Oui, justement,
ça pourrait être l'occasion à la radio d'ailleurs.
Ouais, ça faisait partie des choses. À la dernière réunion, on s'est dit demandons de l'aide.
Oui, c'est maintenant, les filles. Ouais.
Mais du coup, si vous êtes intéressés pour vous investir dans un projet
comment
qui n'est pas du tout fatigant, vous n'avez pas bien entendu.
On est, moins ça sera fatigant.
Mais se répartir les tâches. Là, c'est un peu le bilan des 3 ans, de se dire déjà, on. Plus se présenter individuellement, savoir qui est cet asso, parce qu'on est assez anonyme, en fait. On a mis un peu de temps à réaliser ça. Et aussi, ça va passer du coup par une nouvelle communication graphique et tout ça. Mais ça va être aussi le moment où on va dire s'il y a des personnes qui sont intéressées à s'investir dans ce projet-là, elles sont bienvenues.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site internet?
Oui, alors on a Instagram, c'est madar.collectif. Vous pouvez nous suivre sur ce réseau social, on est assez actifs et on répond. Et on a aussi une adresse mail qui est dans la bio de notre page.
Et si par exemple un artiste ou une artiste nous écoute et a envie de justement vous envoyer son portfolio, ses créations?
C'est hyper bienvenu, nous fait super plaisir de recevoir des portfolios et de rencontrer des gens. Donc ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut. Enfin, il faut pas,
faut pas hésiter.
Faut pas hésiter. Voilà.
Là, le prochain projet, il est déjà fixé ou il est encore à construire et à imaginer?
Alors, on se fixe pas de deadline en particulier. Comme on disait, on sait plutôt au fur et à mesure de si on trouve des lieux ou non. Néanmoins, on a quand même une date là pour laquelle on essaie de pouvoir monter un projet. C'est pour l'anniversaire donc des 3 ans, qui sera en début décembre, le 6 décembre. Donc à ce moment-là, on essaye en fait en général. Bon, c'est arrivé que 2 fois pour l'instant, mais à chaque anniversaire, on essaie de trouver un.
Depuis 25 ans, on fait ça.
Voilà, mais jusqu'ici, on a réussi à trouver des lieux à cette période-là et à pouvoir monter des projets assez, pour célébrer quand même et pour se féliciter nous aussi. Et donc là, ce serait potentiellement dans cette période-là que serait notre prochain événement.
C'est bientôt en fait.
Mais
quand
on annoncerait encore.
Voilà,
on dirait. C'est le 6.
Secret. Ça. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et vous saurez les infos qui arriveront prochainement. Si,
peut-être le 6, peut-être pas. Peut-être on verra. Pas. Voilà, bien sûr.
Ok. Trop chouette.
Mais oui, peut-être qu'on sera d'ailleurs présents.
Est-ce qu'on y va, nous?
Bah oui. Ah bah oui,
c'est un message.
Avec plaisir.
Vous recevrez le carton d'invitation à l'anniversaire.
Parce que oui, c'est...
Ouais. Non. Non, je disais qu'on reçoit donc à la radio un invité par mois, mm-hmm. et que souvent on aime aller aussi découvrir le travail, de continuer d'aller suivre les projets de nos invités. Donc c'est chouette si on peut venir à votre prochaine vernissage.
Bien sûr,
ce serait super. Ouais.
On vous tiendra au courant.
On reçoit le carton d'invitation.
Mais oui, j'aime bien ce truc d'anniversaire, une petite invitation.
Mais d'ailleurs, justement, quand on dit vernissage, ça sera quand même performance, finalement. Ce sera un événement où il n'y aura pas forcément que...
Bah, en fait, ça dépend, encore une fois,
du lieu.
C'est qu'on ne peut pas faire des concerts live toute la nuit chez quelqu'un. Ou,
Vous faites en appartement aussi?
Non,
c'est pas arrivé.
On l'a envisagé quelquefois en pénurie de lieux.
Écoutez, je peux vous parler d'un truc. Alors, chez moi, mon appartement. on en parlera plus tard. Mais non. Par contre, j'ai rencontré un gars qui a créé une association qui s'appelle. C'est même un site internet et une application qui s'appelle Hormur. Mm-hmm. Et en fait, c'est une application qui permet à un artiste de mettre en ligne son projet et à un hôte, quel qu'il soit, de mettre son lieu à profit. Donc ça peut être une grange, une ferme, un appartement, une terrasse, une véranda, enfin peu importe. Et du coup, l'artiste choisit en fonction du lieu adéquat pour ses performances. Donc je parle peut-être pas en termes d'exposition, de vernissage qui durera sur du long terme, à moins que ce soit vraiment un lieu qui soit potentiellement ouvert, mais même en termes de pratique artistique personnelle, je me dis que ça pourrait être aussi
c'est chouette.
Intéressant de voir. Et donc, ça peut être plein de formes différentes. En effet, ça peut être une exposition chez quelqu'un ou dans son lieu. Ça peut être un récit de poésie, ça peut être un concert, un spectacle de théâtre ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Ouais, grave, vraiment. C'est hors mur. Vraiment.
Hors mur, ok, trop bien.
Ouais.
Bah, merci.
Ouais, je suis pas sûre de l'orthographe, mais bon, vous trouverez.
Oui, on regardera.
Si vous pouviez résumer l'esprit de Madar en quelques phrases, est-ce que...
Quelques phrases. alors, je dirais que Madar, donc, c'est un projet qui est né d'une impulsion et d'une envie bouillonnante de faire des choses en dehors des études et après les études, donc d'enclencher ça, de travailler avec d'autres personnes. Donc il y a vraiment cette notion de collectivité et de travail en commun qui est vraiment très très marquée, très présente.
C'est une bande d'amis quoi, qui ont envie de faire des choses ensemble.
Oui, qui ont envie de rencontrer, découvrir des lieux, se donner des challenges continuellement.
Oui.
Et aussi, je
pense quand même de se professionnaliser quoi, de pouvoir se donner des lieux, enfin des contextes de professionnalisation pour.
Parce que d'ailleurs, oui, j'ai une question, ça me fait penser. Est-ce que certains artistes ont signé parfois avec des lieux pour une collaboration plus long terme? Parce que professionnalisation, c'est aussi, ça peut être ça aussi.
Oui, bien sûr. Bah, je pense qu'on a dû être à la naissance de rencontres. Oui.
Oui, ou alors pendant des vernissages, des artistes qui ont été repérés par d'autres structures, et dans ce cas-là, ça a donné lieu à d'autres collaborations, donc par la suite qui ne dépendaient plus de nous, mais oui, bien sûr, ça a donné lieu à ça. Ouais.
Même vous, en fait, je me dis, est-ce que vous avez envie de continuer dans ce domaine-là, et peut-être cette activité qui pour l'instant est bénévole, en faire une professionnalisante et qui puisse vous rémunérer?
Ah oui, ce serait génial.
Oui.
C'est un peu l'objectif, je pense, ouais.
Oui, sur long terme, il va falloir qu'on développe, qu'on propose d'autres choses, sûrement que ce format-là uniquement d'exposition ne suffira pas, mais pourquoi pas s'ouvrir à d'autres choses au sein de l'association. Ouais.
Affaire à suivre, alors.
Mais toujours.
Madar créative et collaborative, ce soir, vous nous avez partagé votre projet. Merci beaucoup.
Oui, merci les filles.
Merci à vous pour l'invitation, c'était super.
Ouais, je suis contente de vous avoir reçu et vraiment, le 6, on est là. On se demande souvent...
Faut qu'on assure maintenant.
Aïe, aïe, aïe. Tout le monde va débarquer. Faites attention, on a 15 000 auditeurs.
Mais c'est chez toi, non? C'est ça que ça dit.
Bien dit, Yannis. Allez, venez tous à la maison. On a l'habitude de demander aux invités une musique, parce qu'on aime bien terminer en musique, qui puisse être significative pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez choisi et pourquoi?
Alors, le titre de la musique, c'est Keep Them Burning Hot de Gwen McRae. C'est la toute première musique qui a donné lieu au premier texte de curation de l'association, puisqu'on a fait la première exposition, c'était sur le thème de la fête. Et donc voilà, donc c'est vraiment une musique qui est symbolique pour nous. Chaque anniversaire, on la ressort aussi. et voilà, donc je pense que c'est une bonne façon de terminer cette émission.
Merci beaucoup. Belle écoute, belle soirée et à très bientôt. Sur Radio Galère.
Bonsoir. Merci. Tout le monde.
Merci. Bonsoir. Yeah. Can you feel it? I can. It's good. Yeah. Now move with it. Everybody that's on the dance floor, I want you to put your hands together and just move your hips from side to side. Yeah, that's it. You got it. Now, Mr. DJ, I want you to get on down with us. It's your time to be a star. Yeah, can you feel it? You gotta ride it, baby. It's good to me. I know you feel it. Come on. Get up now. Listen.
gotta give it up.